Pour cette semaine spéciale de documentaires et créations sonores à l'antenne, le son dans tous ses états, la grenouille a pris le temps de discuter avec Marc Pichelin, l'un des artistes de la compagnie Ouïdir, qui développe un travail original de création à entendre. Tant documentaires qu'artistiques, les orchestrations de paysages sonores d'Ouïdir croisent souvent le médium photo pour explorer les liens entre ces matériaux tout en s'affranchissant des langages audiovisuels plus classiques. L'écoute devient une expérience et un engagement tout à la fois lorsque les manipulateurs de la compagnie Ouïdir chatouillent nos oreilles. Pour commencer, petit exercice de définition. La phonographie, qu'est-ce que c'est ?
En fait, phonographe ou phonographiste, c'est en relation avec cette notion de phonographie qu'on s'est inventé ou réinventé, ou en tout cas réapproprié avec Jean Palandre suite à des travaux d'Alain Savouré, en fait, au début des années 90, où on trouvait intéressant de se définir non plus simplement comme compositeur, on travaille sur la musique électroacoustique ou autre, mais aussi se définissant comme phonographiste, comme des gens qui fabriquent des images sonores à partir du réel.
Et votre parcours, vous, comment vous êtes arrivé justement à la phonographie ?
Alors en fait, moi je travaillais en fait avec un groupe de musique électroacoustique qui est toujours à Albi. Avec qui donc moi j'ai commencé à bosser. Je suis rentré dans ce groupe un peu par hasard. À l'âge de 20 ans, un peu en stage, enfin un contrat précaire, pas du tout pour faire de la musique, mais plutôt pour faire de la technique. Et puis petit à petit, je me suis formé aux techniques de studio électroacoustique et à la composition électroacoustique. Et puis je suis devenu assistant de studio, puis j'ai mené ma propre vie un peu de musicien, en découvrant aussi la musique improvisée et des choses comme ça. Et puis en travaillant avec le GMEA et sur des projets de musique électroacoustique, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'enregistrer donc à l'extérieur, donc de travailler le paysage sonore, en fait, comme, voilà, de prendre du son dehors. Et dans la tradition de la musique électroacoustique, on était en train de prendre du son. Et puis après, c'est le geste du studio et les techniques de studio qui vont fabriquer la musique et non pas les sons en tant que tels. Et au GMEA, on a travaillé notamment sur des projets où on était en relation avec des villages, avec le département, en gros, où on faisait ce qu'on appelait des géophonies, donc c'était des espèces de cartes géosonores où on relevait des acoustiques particulières ou des sons particuliers sur les cantons du département du Tarn. Et donc moi j'étais amené à faire ce travail un peu de collectage, qu'on disait à l'époque, pour faire ces relevés sonores et puis faire ce travail un peu pédagogique qui était d'amener les gens à écouter un peu leur environnement sonore pour les amener après, ensuite, à éventuellement écouter des musiques contemporaines. Et je me suis en fait aperçu, en faisant ce travail de collectage, que bien souvent les sons en tant que tels étaient bien plus intéressants que les musiques qu'on pouvait en tirer. Et qu'en tout cas, il y avait de la musicalité dans un paysage sonore, il y avait de la musicalité dans une voiture qui passe sur la route, ou un oiseau, ou un avion, ou je ne sais quoi, et qui était intéressant à travailler en tant que tel. Et donc, j'ai commencé à brasser un peu ces histoires-là. Et très rapidement, donc j'ai fondé Ouïdir, qui était au début vraiment un label, on va dire, de discographique, mais qui travaillait vraiment sur la question de quoi mettre sur des disques, autres que simplement des musiques pratiquées pour le concert, mais voir comment le disque pouvait être aussi un support de création sonore.
La mer était assez dure, oui. Et on s'y faisait. Ah ça, c'était pas facile. Hein. C'était assez scabreux. Parce qu'il y avait des cailloux. Hein.
Et nous, ce qui nous intéresse dans l'écoute qu'on peut avoir du réel, c'est n'était pas de faire une image du réel en tant que tel pour avoir un certain de naturel ou de réalisme ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment comment en tant que musicien on entend de la musique et on fabrique de la musique avec le réel. C'est ça qui est particulier dans cette pratique de la phonographie. Ce qui nous intéresse justement dans cette histoire, c'est le trouble qu'on peut créer justement en travaillant avec le réel par rapport aux informations qui sont contenues dans le réel. Parce que si on entend un oiseau, on peut dire moi j'entends une note et puis il y a un gazouillis qui voilà, comme faisait Messiaen par exemple, et puis on peut faire des relevés sur des portées musicales pour dire voilà, l'oiseau il a fait tel chant et puis le faire reproduire par un violon ou je ne sais quoi, voilà. Mais on peut pas échapper quand on enregistre un oiseau sur l'idée qu'on reconnaît que c'est un oiseau. Donc on travaille avec cette ambiguïté là, c'est à cet endroit là que ça nous intéresse. Il y a à la fois de l'information, mais il y a aussi de la matière. Il y a de la matière sonore, et qui peut être musicale, qui peut être poétique, qui peut être je ne sais quoi, mais qui pour nous intéresse avant tout parce qu'elle est artistique, parce qu'elle a une sensibilité, parce que elle, voilà. Mais elle dit quelque chose, elle porte aussi une information, elle a un signifiant. Voilà, comment, quand on enregistre Berger d'Aubrac, par exemple, la voix du berger est aussi intéressante en tant que voix, en tant que musicalité, en tant que intonation, accent, ou je ne sais quoi, que simplement par rapport à ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on passe autant de temps à monter et à travailler justement les rythmes des voix, les respirations et machin. Parce que pour nous, il y a autant de musicalité que de sens.
Hier soir, quand j'ai eu souper, j'en avais une. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai regardé à la télévision. Putain, tout à coup, je fous en bonne. J'ai dit, maquerelle, j'ai oublié d'aller voir ma brebis. Maquerelle, quand j'arrive à la porte, quand j'ouvre la porte, elle avait fait son petit. Elle avait allé toute seule. Ça s'est bien passé. Enfin, j'aime bien y être quand même. Quand... Mais quand est-ce que c'est avant-hier soir, oui. Putain, on arrive quand j'ai eu donné au brevis, l'une de nouveau pour agneler. Bon, j'ai dit ça, bien, on va attendre. Ah, elle avait le mal pour faire le petit et tout, jamais cette pute de petit venait. Tout à coup, les deux pattes sortent. J'ai dit, mais il vient par le cul, cette pute d'agneau. En effet, il est venu en reculant. Impossible de le faire venir. Et la veille, j'avais déjà donné 34 000 au vétérinaire, j'ai dit d'ici qu'il fallait faire remonter le vétérinaire.
En fait, depuis 10 ans, moi je bosse avec Christophe Guez, donc photographe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pas créer de hiérarchie entre le son et l'image, de voir vraiment qu'un son peut porter un projet d'écriture ou qu'une image peut porter un projet d'écriture, mais qu'on le fait l'un et l'autre. On ne fait pas un travail d'écriture avec l'image et après il faudrait voir comment le son peut se mettre là-dessus ou des choses comme ça. Déjà dans le processus de travail c'est très particulier parce qu'on est tous les jours tous les deux sur le terrain, l'un en train de faire des prises de vue, l'autre en train de faire des prises de son, en train de partager ses temps de prises de vue, de prises de son ensemble et de voir qu'est-ce qui peut intéresser le photographe, qu'est-ce qui peut intéresser le phonographe. Et on s'aperçoit que la photographie c'est quand même quelque chose qui montre des choses, c'est-à-dire que moi si je veux montrer je sais pas moi, une table, avec le son, j'ai du mal. Voilà. Par contre, si on veut montrer une table, ben, on peut la photographier. Voilà. Et à côté de ça, par contre, moi, si je veux faire entendre le vent, je peux plutôt travailler la spécificité du son et plutôt que de s'acharner à ce que la photo montre le vent, même si c'est peut-être possible, mais bon là. Donc ce qu'on essaie de trouver, c'est ça, c'est de voir comment dans les informations et dans les poétiques qui sont développées, on s'invente un petit langage comme ça entre la photo et la phonographie, qui est des fois un jeu de synchronisation, des fois c'est un jeu de désynchronisation totale, et comment on crée de la poésie entre les deux. Voilà. Et comment une phonographie et une photographie, ça n'a pas donné deux choses, mais ça doit créer un troisième sens, ça doit créer une troisième perception sur ce qu'on aborde comme sujet, quoi. Voilà.
quoi pour leur donner?
C'est mélange maïs, blé, orge, tourteau de soja et le minéral pour équilibrer. C'est nous qu'on fait la farine.
Moi, en travaillant sur les musiques contemporaines, j'ai toujours été surpris de voir à quel point on était peu inventif sur les modes de diffusion de la musique contemporaine. Alors qu'on peut l'être beaucoup sur la forme, sur les écritures, et on l'est peu sur la façon de la diffuser. Par exemple, je prends un exemple très simple de la musique concrète, la musique électroacoustique, puisque moi je viens quand même plutôt de là. Schaeffer, en inventant la musique concrète, déjà, lui, il pense inventer de la musique. Alors qu'on n'est pas sûr que c'est de la musique. Peut-être qu'il aurait pu dire on est dans les arts du sonore, et que peut-être ça peut être de la musique, mais peut-être ça peut être autre chose. Et tout de suite, tout le vocabulaire s'est focalisé sur l'idée que c'était de la musique. Alors que le vocabulaire a pu s'inventer complètement, ou aller piquer à droite à gauche, sur le cinéma, sur la radio, sur je ne sais quoi, ou les arts plastiques, mais il a tout, comme s'il y avait une espèce de légitimité à travailler ce matériau spécifique qui était la musique électroacoustique qui s'est inventée, la musique concrète ou ça, par le fait qu'on calque tout sur les processus et les modes de diffusion de la musique classique. Donc on parle d'orchestre de haut-parleur pour la diffusion machin, on parle de concerts de musique électroacoustique, on parle de musique électroacoustique concrète ou je sais pas quoi, etc. Et donc on se retrouve dans une situation où on est peu inventif sur la façon de diffuser ce travail-là. On fait des disques de façon très classique, comme les autres pratiques musicales, etc. Alors que je pense que on ne peut pas faire l'impasse sur de l'invention, de la créativité en termes de diffusion, autant qu'en termes de création ou d'écriture musicale ou autre. Et c'est pour ça que moi c'est important dans ma pratique d'être sur de l'invention par rapport à ces objets d'édition phonographique, parce que je pense que c'est aussi une façon simplement de présenter le travail au mieux. Et donc je me dis, sur WeDear, notre rôle, notre travail sera de fabriquer des objets de création sonore qui existent pour le disque et qui sont inventés par rapport à ça, et donc dans la forme et dans l'écriture. Donc on s'est choisi cette histoire de phonographie, tout ça pour trouver un peu qu'est-ce qu'on allait mettre sur les disques, et dans la forme on s'est dit, mais comment on invente ces des objets qui sont particulièrement à écouter, mais à écoute domestique. Voilà, et qui existe par rapport à l'idée qu'on pourrait les envoyer par la poste, par rapport à l'idée que ça peut être des livres-objets avec des photographes ou autres, etc. Donc essayer d'être inventif autant sur le mode de diffusion que sur l'écriture de l'objet lui-même. Et puis j'ai poussé le bouchon jusqu'à en faire un objet qui est du format carte postale, etc., qu'on peut vraiment envoyer par la poste, avec l'emplacement pour le timbre, pour l'adresse, etc., comme une vraie comme une carte postale, parce que c'est un objet qui est commun, donc du coup qui ne fait peur à personne.
Hey!
Une démarche qui est allée naturelle. Maintenant, on voit que c'est rentré dans le champ un peu des pratiques des électroacousticiens ou des gens qui travaillent à la radio, ou des gens qui travaillent sur les arts du sonore de façon un peu globale, puisqu'on se revendique plutôt de cette ouverture-là. Ce qui est intéressant, c'est que la phonographie, c'est pas une méthode. C'est pas un langage particulier, c'est l'idée qu'à un moment donné, on peut aussi considérer que l'enregistrement, enfin, en tout cas, l'enregistrement, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais l'idée de fabriquer une image à partir du réel ou à partir de ce qui nous entoure, peut être un art en tant que tel, voilà. Et après, c'est un art qui en fonction de ce qu'on en fait et des auteurs qui s'en emparent, vont dans des pistes, voilà, il y a des gens qui peuvent travailler plutôt sur le visage sonore parce qu'ils trouvent une forme d'abstraction et je sais pas quoi qui les intéresse, d'autres qui vont travailler plus sur l'idée du portrait sonore, mort, de qu'est-ce que c'est que de faire, de rendre compte d'une personne au travers de la phonographie. Après, ça peut être des activités, ça peut être, voilà, et puis ça, tout ça peut aussi se brasser avec des projets plus musicaux, avec des instrumentistes. Et on peut, enfin, on sent qu'il y a un intérêt, un réintérêt, mais notamment aussi avec des radios comme Arte Radio, comme Radio Grenouille, voilà, comme des Silences Radio, des gens comme ça, qui remettent aussi en avant l'idée que, on peut aussi fabriquer des pièces. Qu'elle soit radiophonique, je sais pas, mais en tout cas ce qui est important c'est qu'elle soit sonore et que les auteurs soient intéressés par l'art du sonore et qu'à un moment donné on fasse acte de création par rapport au son.
Vous venez d'entendre une interview avec Marc Pichelin de la compagnie Ouïdir qui développe un travail original de création à entendre. Des créations sonores et autres docus à retrouver toute cette semaine sur les 3-8.